Όχι, αν το έχει πάει ο καφέ ο Ιαντάλ. Γερεύει το τάλμα σε
Bonjour à tous et merci de votre fidélité à Radio Capi, la fréquence de la paix qui vous propose Parole aux auditeurs, votre magazine d'échange citoyen. 56 ans après son accession à l'indépendance, le 30 juin 1960, le secteur des transports et des ports ainsi que le chemin de fer en RDC n'arrive pas à offrir un service meilleur à celui de la période coloniale, selon une réflexion de l'université de Luele. Les problèmes qui caractérisent ce secteur sont, d'après la même université, l'insuffisance et l'obsolescence des matériels de traction, l'insuffisance et l'obsolescence des équipements de signalisation et de communication, le manque de pièces de réchange, le manque d'entretien, le vieillissement et la sous-qualification du personnel, le problème de gestion. Selon vous, que faut-il faire pour améliorer le secteur des transports et des ports ainsi que le chemin de fer en République démocratique du Congo? À l'adresse pa@radiocapi.net, rejoignez-nous et appelez-nous au 081-890-6315 pour votre intervention en direct. Julie Pedra Bongonde est au standard, Jean-Claude Fiala à la mise en onde, Pierre Lamégie à la réalisation de ce programme coordonné, présenté par J.R. Mungembo, Wabou Angie sous la supervision de Martin Sebou Jalou. Bienvenue à tous.
Parole aux auditeurs, pour participer, 081 890 63 15 ou par internet pa@radiocapi.net.
Parole aux auditeurs, J.R. Mungembo.
Voilà, nous avons le premier auditeur qui nous a rejoint pour ouvrir ce débat. Adrien, vous êtes à Kananga, bonjour. Oui, dans l'ancienne configuration de la décentralisation, en fait, le Kananga se retrouvait au Kasaï occidental, à proximité donc de port Franqui, donc comme je l'ai dit, à Ilebo. Alors aujourd'hui, quel est l'état des lieux de ce port, disons, d'Ilebo?
Oui, merci J.R. Lungembo de la parole que vous m'accordez. Il faut dire que le port d'Ilebo, qui est un port très important pour l'économie nationale, non seulement provinciale, nationale, parce que c'est un port qui fait une liaison entre Kinshasa et Lubumbashi, c'est-à-dire que les marchandises viennent par train pour transiter par Kinshasa. Il faut que ça passe par ce port. Et puis les marchandises qui viennent de Kinshasa pour transiter par Kananga, Mbujimayi, Mweneditu, Lubumbashi, ça transite toujours par là. Mais laissez-moi vous dire que c'est un port qui est dans un abandon total, c'est-à-dire que rien n'est, donc ne fait lorsque vous recevez avec différents gris qui sont là-bas pour la charge et puis décharger aussi. Il y a certains gris qui ne fonctionnent pas. Il y a certains gris qui sont donc en panne depuis très longtemps. Il n'y a que deux ou trois gris sur le neuf qui sont encore opérationnels. Donc tout le monde, la population, non seulement d'Ilebo, mais même celle de Kananga, a monté au créneau pour faire voir l'autorités politico-administratives, provinciales ou bien nationales, pour que ces autorités voient comment est-ce qu'il faut vraiment venir en aide, parce que la paralysie totale de ce port sera vraiment aussi peut-être la fin de l'économie au niveau national, au niveau provincial. C'est comme ça que c'est difficile de ce côté-là. Là, c'est pour, avec un effort, vous allez vous rendre aussi compte que parce que l'effort est là, il y a aussi certaines voies qui permettent à ce que le moyen de transport, ou bien le bateau, ou bien le train, puisse accéder à ces ports. Lorsque nous prenons le chemin de fer, là, n'en parlons pas, parce qu'il y a même nos amis sud-africains qui venaient avec les locomotives Sheltam, mais lorsqu'ils avaient effectué la première course entre Kananga et Ilebo, ils ont dû abandonner à mi-chemin. Ils se sont posé des questions, mais comment les trains continuent toujours à arriver jusqu'à Ilebo, parce que la voie ferrée est vraiment est abandonnée et elle est dans une donc dans un état très 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 buté, jusqu'à ce l'enseigne que pour eux, ils ne pouvaient plus encore continuer, donc les jeunes ne devraient pas encore continuer à faire des navettes. Mais au jour d'aujourd'hui, je ne sais pas si c'est par la grâce de Dieu que certains trains continuent toujours à faire des navettes entre Canada.
Oui, oui, Adrien, mais qu'en est-il aujourd'hui de retomber de l'acquisition des nouveaux trains voyageurs de la SNCC? Parce qu'on aurait appris que, effectivement, le gouvernement a disponibilisé plusieurs locomotives pouvant desservir donc le Lubumbashi et le Kasai. Alors aujourd'hui, on peut dire qu'il y a quand même des retombées sur le plan social ou encore sur le plan économique au niveau de ces deux provinces.
Oui, Gilles, de ce côté-là, il faut reconnaître que les retombées sont quand même bonnes parce que nous prenons nos richesses provinciales, le maïs, le manioc, l'huile de palme. Vous allez vous rendre compte que ce sont ces années-là qui ont baissé donc énormément de prix. Parce qu'il y a vraiment des navettes entre Kananga Indibo, Kananga Mweka. Donc, de ce côté-là, il n'y a pas de problème. Mais l'éternel problème, c'est cet état puteux. Parce que même lorsqu'il n'y a pas de déraillement, c'est parce que nos conducteurs ont quand même telle maturité. Je vous ai donné ici le cas donc, des Sud-Africains qui avaient du mal à arriver à Indibo. Ils ont dû abandonner les trains à mi-chemin pour retourner. Donc, c'est comme ça que. Nous nous posons la question pour répondre à la question qui a été scotchée sur votre page Facebook. Franchement, lorsque nous prenons l'indépendance, je ne mérite pas de venir sur les propos de Stanley que sans chemin de fer, le Congo serait infini. Mais je vous dis tout simplement que depuis l'époque coloniale jusqu'au jour d'aujourd'hui, cette voie ferrée n'a connu aucune modification. Donc les tronçons, il faut Mweka. Je dis bien, parce que Mweka, Kananga, il y a eu quand même quelques réhabilitations avec le déraillement de l'UMB dans les années 2007-2008. Mais ces tronçons-là n'ont connu aucun problème. C'est comme ça que nous disons, il ne faut pas qu'on attende encore un autre déraillement pour qu'on puisse maintenant chercher à améliorer les choses. Le moment est arrivé.
Est-ce qu'Adrien, aujourd'hui, comme nous l'avons dit, les problèmes qui caractérisent le secteur des transports et des ports, ainsi que des chemins de fer aujourd'hui, selon une réflexion donc de l'université de Luélé, il y a entre autres l'insuffisance et l'obsolescence des matériels de traction, l'insuffisance et l'obsolescence des équipements de signalisation et de communication, le manque de pièces de rechange, le manque d'entretien, le vieillissement et la sous-qualification du personnel, et ajouté à cela le problème de gestion. Est-ce que vous avez pratiquement la même lecture comme l'université de Luélé qui a fait cette réflexion?
Non, JR, je ne partage pas cette réflexion. Parce que ici, c'est vrai que par rapport au dernier aspect, à la province, donc à la situation de la gestion, là, je suis d'accord avec eux, mais dire que donc l'absence de matériel, non. Ici, sur la volonté politique, parce qu'il n'y a pas longtemps, la Banque mondiale avait soutenu donc la SNCC, par exemple, si je prends le cas typique, mais vous allez vous rendre compte que comment était la gestion de cette offre. La gestion est catastrophique jusqu'au jour d'aujourd'hui. On n'a jamais fait un bilan pour savoir comment était la gestion parce qu'on devait d'abord soutenir les retraités, donc les pensionnés. Et de ce côté-là, il y a eu des pleurs et des grincements des dents. Et puis, les pièces de rechange. Tout cet argent-là devait toujours servir à ça, mais rien n'a été fait. C'est là que moi je rejoins nos amis là de l'université pour le dernier aspect, c'est la gestion et la mauvaise politique, donc le manque de bonne politique qui fait défaut par rapport à cette situation dont nous déplorons aujourd'hui.
Voilà, donc il y a quelques années, le gouvernement d'ailleurs congolais a initié des réformes du secteur des transports et des ports, ainsi que des chemins de fer pour améliorer le service de la SNCC et de la STP. Voilà qu'aujourd'hui, s'il y a de réflexions à engager autour de cette question, bon nombre d'observateurs arrivent à conclure notamment qu'effectivement ces différentes réformes ont souffert de beaucoup de faiblesses et beaucoup de problèmes. D'autant plus que le résultat n'est pas celui escompté. On peut, à travers cela, disons, noter ou encore signaler quelques cas des contrats qu'on a pu signer ça et là. En ce qui concerne, par exemple, la SCTP, nous avons vu à un certain moment les Français qui ont pris, disons, l'initiative de signer un contrat avec le gouvernement congolais, les contrats sociaux, mais cela n'a pas marché comme il fallait, et il y a eu des démissions qui s'en sont suivies avec ceux qui étaient en tête, donc les Français qui étaient en tête. Parallèlement à la SNCC, il y a eu la même situation avec des démissions au niveau du sommet, des responsables qui avaient travaillé en partenariat avec des grandes firmes sud-africaines ou encore françaises, mais le résultat n'a toujours pas été celui escompté. Alors aujourd'hui, comme vous l'avez dit, Adria, c'est vrai, le problème se pose au niveau de la gestion. Il faudrait quand même qu'on puisse mettre du sérieux et qu'il y ait réellement la volonté politique pour amener. Voilà, Adrien, il y a beaucoup de gens. Je crois que j'ai fait juste le résumé pour ce que, par rapport à ce que vous avez dit. Alors, Jean-Claude est à Kinshasa. Jean-Claude, bonjour.
Bonjour, monsieur J.R.
Vous avez la parole, Jean-Claude. Quel est votre avis?
Bon, merci beaucoup. Moi, je dis que je partage totalement l'analyse faite par l'Université de Louélé. Je crois qu'il ne faudrait pas concevoir la France pour tout ce qui est problème d'équipement dans notre pays. Je vois que si nous analysons les volets techniques, les volets financiers et les volets humains, les problèmes se posent. C'est JR. Je pense que ce n'est pas avec un budget de 8 milliards de dollars ramené aujourd'hui à 6 milliards de dollars qu'on peut ponctionner une part importante, par exemple, pour la réhabilitation. Par exemple, c'est un cas, hein, parce qu'il n'y a pas seulement la SNCC, la SNEL, la Régie des eaux, c'est le même problème. Hein, bon, la situation, vous l'illustrez ce matin, par l'exemple, avec l'exemple des chemins de fer. Monsieur J.R., depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas s'il y a un tronçon de chemin de fer qui a été réhabilité selon les normes internationales. Je ne pense pas. De deux, le personnel. Je vois que le personnel est vieillissant. Je ne pense pas que ce personnel-là soit à jour. Hein, ce n'est pas un personnel qui a subi des stages de perfectionnement, tout ça pour s'adapter à la technologie moderne. Et puis, au niveau des responsables même qui gèrent la société, vous connaissez, ce n'est pas un secret, chez nous souvent, les nominations à des postes de responsabilité, c'est comme si on rémunérait beaucoup plus de militantisme politique que de compétences. Bon, et puis, il y a l'élément même de la gestion, de la gestion même. Quand je parle de la gestion, je dis ceci, M. J.R. Quand nous voyons ce qui se fait ailleurs, je prends l'exemple du chemin avec Bolloré, ce qu'il a fait entre la Côte d'Ivoire et le Niger. Bolloré a eu un marché en Afrique de l'Ouest, ils ont réhabilité le chemin de fer Abidjan en Niger, et puis ils ont prolongé le chemin de Ouaga jusqu'au port de Cotonou. Mais ce chemin de fer qu'on construit aujourd'hui, il répond aux normes aujourd'hui dans les secteurs de transport ferroviaire. Mais chez nous, on n'a jamais fait ça. Donc, moi je crois que les problèmes ici chez nous, nous ne devons pas avoir honte. Parce que parfois chez nous, si on aime toujours parler de nationalisme, de patriotisme, non. Je crois que nous n'avons pas les moyens pour réhabiliter les secteurs importants de l'économie. Je crois que c'est d'approcher le secteur privé international, parce que nos frères n'ont pas d'argent pour réhabiliter le chemin de fer. C'est d'approcher les secteurs les privés internationaux qui ont les moyens bien négocier avec le partenariat dans la transparence. Parce que là aussi, chez nous, le problème, c'est quoi? Quand on veut négocier un marché comme ça, c'est une cellule créée dans un cabinet, le peuple, les gens ne connaissent rien, ne suivent rien.
Oui, Jean-Claude.
Vous apprenez un bon matin que ceci sera.
Oui, Jean-Claude.
C'est un dossier compliqué que nous devons gérer avec sérieux et dans la transparence. Tout est à reprendre.
Oui, mais c'est Jean-Claude.
Nous n'avons pas les moyens pour le faire.
Oui, mais c'est Jean-Claude. 56 ans après son accession à l'indépendance, le 30 juin 1960, on a l'impression que la RDC a difficile à pouvoir élargir ses voies de communication. Et certains observateurs, pour ne pas citer cette réflexion de l'Université de Louvain, qui évoque notamment le cas de gestion, donc les problèmes de gestion aujourd'hui. Mais est-ce qu'on peut dire que, après avoir assisté à plusieurs réformes, pour améliorer les services que rend aujourd'hui la STP ou encore la SNCC, on peut dire exactement qu'on peut être à la hauteur pour élargir nos voies de communication, c'est-à-dire avec le fleuve, nous permettre de bien baliser, avec les équipements de signalisation des communications, avec les chemins de fer autant. Donc, est-ce que ça peut être possible?
Mais je vous ai dit, M. Julien, tout à l'heure, que nous n'avons pas les moyens financiers pour faire tout ce travail-là. Nous n'avons pas de moyens financiers. Nous n'avons pas de... Regardez déjà même les routes, on n'arrive pas à réhabiliter les routes qui sont défoncées. Nous n'avons pas l'argent pour faire ça. La solution vient d'un partenariat avec les secteurs privés, le secteur privé extérieur. Mais n'ayons pas honte de faire un diagnostic objectif et trouver des solutions conséquentes. Donc n'ayons pas honte. Et ne nous nourrissons pas d'un militantisme ou bien d'un patriotisme juste et idéologique alors qu'il ne sert pas la situation.
Alors quel regard avez-vous par rapport à l'attitude du gouvernement quand il réhabilite en fait les matériels existants, les matériels roulants, les matériels vous avez vu tout récemment avec la réhabilitation de l'ITB Kokolo et aussi la remise en service de trains voyageurs Kinshasa Matadi. Est-ce qu'on peut dire effectivement
c'est
encouragé?
Vous savez, réhabiliter les locomotives, c'est une portion d'un projet, d'un grand projet. Parce que même si nous achetons les locomotives les plus performantes aujourd'hui, mais si les rails, si les dimensions des quatre mâts de rail ne suivent pas, on ne pourra pas exploiter ces locomotives-là. Et c'est le problème que nous avons aujourd'hui. Je vois qu'il y a des personnes qui ont parlé des locomotives qui étaient vues, c'est pas moi, d'Afrique du Sud, qui ont connu des problèmes. Donc, je vous dis, le problème, c'est un problème d'ensemble. Le problème d'ensemble, même si nous achetons des belles locomotives, même si nous achetons des beaux wagons pour les voyageurs, mais si le chemin de fer n'est pas réhabilité conformément aux normes, on n'aura pas résolu le problème.
Merci beaucoup, Jean-Claude, d'avoir appelé.
Donc, c'est un problème d'ensemble, c'est un problème. Moi, je dis que dans ce secteur-là, il faudrait que nos autorités prennent les problèmes au sérieux, les discutent, les examinent dans la transparence, hein, et puis qu'on ait un plan cohérent un plan cohérent de réhabilitation.
Mais il y a des
petites fonctions. On fait 5 km, on a fait ceci, on a fait. Non!
Mais il y a une
guerre. Je me suis dit, vous quelques minutes. Prenez même des cas de chemin qui sont ça matin. On a fait du tapage, on a repris la ligne Matadi, qui sont ça Matadi et tout cela. Mais on n'en parle plus aujourd'hui. On n'en parle plus aujourd'hui.
Oui, il y a beaucoup d'internautes qui nous ont écrit, qui ont même posé la question sur l'état de lieu de l'ITB Kokolo qui venait récemment d'être réhabilité. Après avoir effectué deux voyages.
Ce n'est qu'un bateau. Avant, on avait beaucoup de bateaux qui fusionnaient les eaux, les fleuves du pays. Mais quand Kokolo, ce n'est qu'un feu de paille.
Voilà. Alors, est-ce que, M. Jean-Claude, vous avez le même regard qu'aujourd'hui, toutes les réformes amorcées pour finalement redorer l'image du secteur des transports et des ports, ainsi que des chemins de fer, n'ont été que des coups de pédalo?
Oui, moi, je le dis, moi, j'ai le courage de l'accepter, M. Jean-Claude. J'ai accepté là. Je vous donne, par exemple, si nous prenons le secteur de l'aviation, hein, M. Jean-Claude. Dernièrement, je suivais sur une station radio étrangère qui parlait, par exemple, nos voisins rwandais. Le Rwanda a acheté des bus A39 et bientôt ils vont exploiter la ligne, l'Algérie et puis l'extrême orient. Ils vont exploiter des Airbus 9. La Côte d'Ivoire ici a acheté des Airbus 9, même des fameux bombardiers ici. La Côte d'Ivoire en a acheté, je crois, 4 9. Quelle est la question de ces pays par rapport à nous? Est-ce que vous pouvez comprendre ça? Nous disons que nous sommes riches, nous sommes ceci, cela. Nous, nous achetons des avions de seconde main. Et ils ont quand même le courage d'acheter des avions neufs, que ce soit des Airbus ou bien des bombardiers. Nous, nous achetons des avions de seconde main.
Merci beaucoup, Jean-Claude.
Aujourd'hui, l'avion qui était tombé, des bombardiers qui étaient tombés en panne, on nous avait dit que l'avion, non, que ceci, cela. Après, en coulisses, on nous dit que non, que l'avion était parti à Addis Abeba, dans les ateliers d'Ethiopie à Milan pour la réparation.
Voilà, je crois
que nous avons suivi ce qu'on voilà. On dit que non, on a ouvert un bureau, des bureaux d'agence qu'on avait ouvert, je ne sais pas si c'est vous cela, depuis qu'on avait l'agence, l'avion n'est aucun avion n'a déjà été secoué la personne. Non, je crois que nous devons avoir un plan de développement sérieux, cohérent. Hein? Il ne faut pas qu'on fasse des choses seulement pour montrer à la population que nous avons. On a fait ceci, on a fait cela, et parfois c'est de mauvaise qualité. Non. C'est ça l'écran mal que nous avons dans notre pays.
Voilà. Donc, encore vos propos, disons, Jean-Claude, de Kinshasa, vous donnez raison à ceux qui disent que c'est 56 ans après son accession à l'indépendance, le 30 juin 1960, le secteur des transports et des ports ainsi que le chemin de fer en RDC n'arrive pas à offrir un service meilleur à celui de la période coloniale. Vous avez évoqué des questions entre des gens de problèmes, entre autres le problème de gestion et aussi le vieillissement du personnel. Maître Sonville, vous nous avez répondu également, vous êtes à Lubumbashi, bonjour.
Bonjour, monsieur Gier, bonjour à tous les millions d'auditeurs de la radio Capi.
Avant d'entamer votre réflexion, tout à l'heure, j'ai posé la question à Maître Adrien de Kananga, la question sur les retombées de l'acquisition des nouvelles locomotives hein, au niveau de la SNCC qui devait desservir Lubumbashi Kasai. Alors aujourd'hui, il devait, à Lubumbashi, on devait assister à une conférence sur les avantages de l'arrivée ou de l'acquisition de ces locomotives. Est-ce que cette conférence a déjà eu lieu?
Non, la conférence n'a pas encore eu lieu, néanmoins seulement les retombées sont néfastes, mais c'est bien. Pour rappeler qu'au niveau du Katanga, il y avait une rotation régulière du train en provenance de Kindu, en provenance de Dilolo, en provenance du Sakai. Et à ce moment-là, le Katanga n'avait pas besoin de l'huile de palme en provenance de Tanzanie, puisque le train a amené la marchandise de Kongolo, de Tebo, de Tabano, c'est-à-dire que le marché était immense. Mais avec l'acquisition de ce locomotive, c'est-à-dire le locomotive, qu'on a changé. Puisque, M. Gilles, on nous apporte des locomotives qui ne sont pas adaptées au rail, à l'écartement du rail. Et ces locomotives-là ne sont absolument rien. C'est-à-dire que le problème est très, 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 très délicat par rapport au transport. C'est-à-dire que du côté même du chemin de fer, aujourd'hui, l'UTT, le réhabilitement, la réhabilitation du pont de Luanda, on ne sait pas comment est-ce que les gens pouvaient se rendre au niveau des communes. Et grâce au gouvernement de l'Ukraine, qu'il y a eu cette réhabilitation du pont de Luanda, qui mettra aujourd'hui du gouvernement sur le plan routier. Là, il y a des bus, il y a même des sociétés de transport qui sont nées, qui ont été créées par rapport au bon état de Mais si nous revenons maintenant au problème estimé, il ne s'agit pas seulement d'acheter les locomotives, il ne s'agit pas seulement de veiller à la réhabilitation de rail, il faut aussi songer à la motivation des travailleurs. Puisque monsieur, on a toujours dit que ce jour, on a toujours dit qu'on va préparer la peine de rail. Aujourd'hui, les gens de la SNC sont amis de plusieurs mois d'employement. Les gens ne sont pas motivés. Comment est-ce qu'ils peuvent travailler? À titre illustratif, monsieur, il y avait un certain blanc qui était venu juste avec monsieur Clark. Toujours avec la même société SNC. Le train de Monédite, ou Mbassou Monédite, c'est mercredi à 8h pour arriver le lendemain à 16h au niveau de Monédite. Maintenant, vous savez combien de temps que ce train met? Vous savez combien de temps que la rotation de Mbassou Kindou met? Un mois! Et dans un mois là-bas, comment est-ce que les petits commerçants peuvent s'en sortir? Aussi longtemps que le chômage passe son plein au niveau du pays. Or, c'est par cette manière que les autres pouvaient emprunter le train pour se donner à leurs besoins, pour essayer un peu de combattre et comment est-ce qu'ils peuvent vivre. Aujourd'hui, rien n'est fait. Au CGE, nous vous disons que ces réformes, tant attendues, ont couché d'une furie. Rien ne va, rien ne va. Mais néanmoins, quand même, il y a eu création d'une usine là pour créer les traverses. Il y a quand même une réhabilitation qui a déjà commencé du côté de Dilolo, mais ça n'a encore rien donné.
Est-ce que Maître Sonville, on peut dire que tout cela serait dû à l'inefficacité d'une bonne politique de développement. Disons tout à l'heure, Jean-Claude qui a appelé des Kinshasa a parlé plutôt d'une planification, meilleure planification pour les développements. Même après l'indépendance, c'est-à-dire la Première République, n'a pas impulsé en fait une bonne politique pour réellement doter le secteur disons des capacités de d'offrir un meilleur service disons plus que ce que nous avons eu à obtenir, à avoir à l'époque coloniale. Alors, est-ce qu'on peut dire que cela s'est poursuivi même à la Troisième République que nous avons aujourd'hui? Donc c'est pratiquement la même difficulté de pouvoir bien planifier les choses. Donc c'est un problème de planification.
Moi, je vous dis que, monsieur Gilles, il y a absence de continuité d'administration. Vous savez, à la FNCC, par exemple, à tout moment, son homme a un comité d'administration, chacun comité de gestion. Celui-là vient avec ses gens. Ils ne sont même pas experts dans la société. Il y a le tribalisme qui bat son plein. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une bonne planification à faire concerner la gestion de la société. D'ailleurs, dernièrement, on a même autorisé au comité de gestion de procéder au recrutement des jeunes. Mais ce recrutement-là est arrêté. Pourquoi? On ne sait absolument rien. C'est-à-dire que M. Gilles, si nous ne l'avons pas, le problème de clientélisme, le problème de planification, le problème de bonne volonté politique, on ne sera absolument rien. Le transport pour le Congo est une importance très capitale, surtout le chemin de fer. Vous vous souviendrez avec moi, Salé avait dit, le Congo sans chemin de fer, le Congo ne va absolument rien. Il y a beaucoup de marchandises qui moisissent en débrouche, là où le train ne peut pas arriver. En son temps, le train arrivait à ce niveau-là. Et il n'y avait pas ce rang de marchandises. Aujourd'hui, M. Gilles, vous êtes en jeudi, il y a au moins un mois, il y a une forte délégation venant de Kinshasa, des ministres, même l'ambassadeur itinérant du président de la République, venir ici pour ramener plaider en Zambie à ce qu'on ait la farine de maïs. Au moment où il y a de maïs qui est en train de pourrir au niveau des Congolais, parce que ça jette l'opprobre à la République démocratique du Congo. S'il y avait une bonne planification, cette délégation-là ne pouvait pas aller en Zambie plaider pour la farine de maïs. On devait trouver une solution. On devait tout simplement faire venir la marchandise qui prennent encore au niveau de Guinée, au niveau de Congo, au niveau du Lébé, tout ça, pour approvisionner le marché au niveau de Mombasa. Et j'espère que le gouvernement doit veiller à cette histoire-là. Hier, nous avons parlé de l'indépendance économique. Mais sans la visite, sans le chemin de fer, sans le transport, on ne sera jamais indépendant. Même quand on parle de pas de la souveraineté. Quel genre de souveraineté, aussi longtemps que, juste sur le plan économique, nous sommes toujours dépendants. Ça ne sera absolument rien, monsieur.
Merci beaucoup.
C'est un problème très capital.
Merci beaucoup, maître Sonville. 56 ans après son expulsion à l'indépendance, le 30 juin 1960, le secteur des transports et des ports, ainsi que le chemin de fer à RDC n'arrive pas à offrir un service meilleur à celui de la période coloniale. Selon une réflexion de l'université de Luelé, les problèmes qui caractérisent ce secteur sont, d'après la même université, l'insuffisance et l'obsolescence des matériels de traction, l'insuffisance et l'obsolescence des équipements de signalisation et de communication, le manque de pièces de réchange, le manque d'entretien, le vieillissement et la sous-qualification du personnel. Ajoutez à cela le problème de gestion. Alors selon vous, que faut-il faire pour améliorer le secteur des transports et des ports, ainsi que le chemin de fer en République démocratique du Congo? 081-890-6315 pour votre intervention en direct.
Parole aux auditeurs.
Nous entamons la deuxième demi-heure de cette émission. Maître Trésor, vous nous avez rejoint. Vous êtes à Kinshasa. Bonjour et bienvenue.
Bienvenue à la biographie. Président Gilles Moukendi. Je termine toutes les actions faites par le prédécesseur. Je dis à toutes les petites injections-là, la mienne, qui est celle-ci. Vous savez, le problème en République du Congo, c'est lequel? Les autorités politiques veulent à tout prix promettre, mais pour résoudre ou réaliser toutes les promesses, c'est toute une affaire difficile. En ce qui concerne le secteur du transport en République démocratique du Congo, il y a un malaise. C'est lesquels? Vous savez, pour tous ces gens-là, les agents, que ce soit des ASMCC ou c'est des différents ports qui se trouvent sur l'ensemble du territoire national congolais, tous ces travailleurs-là ne sont pas bien rémunérés, ils ne sont pas bien payés. Comment ils peuvent bien travailler? C'est pas un problème majeur. Pourquoi? En ce qui concerne particulièrement les chemins de fer, au Katanga, il y a la locomotive, toutes les locomotives qu'on a acquises, mais le réel problème qui est là, c'est que toutes ces locomotives-là seront affectées et c'est que le trajet ou leur transport sans que le travailleur soit bien payé. C'est ça le malaise. Il faut que le gouvernement le puisse s'occuper des conditions de paiement des travailleurs. C'est ça le malaise qui se trouve dans ce secteur-là. Il ne suffit pas seulement de parler ou de promettre, il suffit aussi de réaliser toutes les promesses faites. C'est ça, moi, le point que je soulève à ce niveau-là. Si vous voyez bien, monsieur le journaliste, toutes nos grandes sociétés, soit de transport ou de port, sont en train de tomber en faillite. C'est tout ça que vous n'avez ici. Si vous cherchez, vous faites des investigations, vous verrez que même les agents qui travaillent ici au niveau de l'ONATRA, j'ai causé avec un agent de l'ONATRA qui m'a dit ils sont mal payés. Ils sont mal payés. C'est ça, c'est ce qui m'a fait dans le débat du jour. Ils sont mal payés, c'est ce qui cause à
l'ONATRA. Oui, mais c'est bon. Est-ce qu'aujourd'hui, quel est le capital qu'a l'ONATRA, donc la STP aujourd'hui, ou encore la SNTC, parce que nous savons que les entreprises de l'État, dans la plupart des cas, sont dans une santé financière qui ne sont pas meilleures. Donc je crois que c'est déjà là le problème. Et cela ne peut avoir un impact sur les sociales. Nous avons fait plusieurs émissions avec notamment la l'OCC et tant d'autres qui connaissent les mêmes difficultés aujourd'hui à l'OCC. Les agents et cadres de cette entreprise accusent un retard dans leur paiement de plus de 3 mois. Donc, vous imaginez. Donc, le cas de l'ONATRA ou de la SNCC, ce n'est pas le cas isolé.
Oui, c'est ça, effectivement. Donc, au lieu que les politiques s'occupent d'autres choses, ils vont mettre tous les moyens pour s'occuper de ce secteur. Pourquoi? Parce que, on va même les prendre comme ça. Les personnes, c'est ça, les projets, ils ont les moyens de le transport, notamment le chemin de fer. Il y a une transaction de Paris, le préfet qui arrive au Qatar et quand on a l'embouchement, il vit grâce aux moyens de transport. Comment est-ce qu'il y a blocage? Comment est-ce que ce dernier peut vivre à l'embouchement? Ce sont les malais.
Voilà.
Là, je demande à notre État, qu'il s'occupe de conditions de paiement des agents de travailleurs pour que ce dernier puisse se donner à ce travail-là.
Voilà, merci beaucoup, Maître Trésor. Et c'est pourquoi il y a des internautes qui ont pensé vraiment à impulser ou à imprimer une bonne politique de redressement des entreprises de transport et des ports en République démocratique du Congo. Cela pourrait améliorer ce service qu'offrent ces entreprises. Alors, Kevin, vous êtes en Bandaka. Bonjour, merci de nous avoir rejoints.
Oui, bonjour, merci JR, merci à tous les auditeurs. Moi, je pense que faut pas toujours voir le secteur des transports tenant compte des entreprises publiques, parce qu'il y a même les privés qui utilisent ce secteur abondamment d'ailleurs. Parce que si on veut seulement faire allusion à ce secteur, faire allusion seulement aux entreprises publiques, on ne parlera que de l'ex-ONATRA, l'SCPT. Mais les privés aussi s'y prennent quand même. Alors, étant donné que les privés y sont, il faut maintenant essayer de faire les rapports entre l'économie et les transports. Parce qu'en RDC, les transports occupent une place vraiment considérable dans notre économie. Étant donné qu'avec les déplacements, ça augmente souvent la valeur des marchandises. Au lieu que ce soit être consommé sur place, elle peut être amenée aux endroits où elles sont recherchées et se vendre encore plus cher. Alors, dans un pays comme le nôtre, le transport stimule certainement la production et ça multiplie aussi les débouchés. Maintenant, avec l'état des routes, je prends l'exemple de transport fluvial et lacustre. L'état de nos routes, disons, ce n'est pas vraiment viable, La RVF fait son travail, mais du genre des canards boiteux. Les routes ne sont pas très bien balisées. Maintenant, j'imagine comment est-ce que les maïs qui proviennent de Bousinga, par exemple, pouvaient atteindre Kinshasa pour que la capitale soit abondée de maïs. Voilà vraiment les problèmes. Et les problèmes aussi, ça se trouve au niveau technique. Il y a problème de formalité substantielle préalable. Un bateau, par exemple, pour que ça puisse être mis en service, il faut que les bateaux soient immatriculés. Alors, son immatriculation implique le jaugeage, c'est-à-dire qu'on veut voir les tonnages du bateau, ainsi de suite. On voit même la puissance motrice du bateau. Un bateau qui ne peut pousser qu'un truc de... il n'a que 50 chevals vapeur, par exemple, mais il transporte des marchandises ou des barges comment dirais-je, qui a un plus grand tonnage, par exemple. Ça fait en sorte qu'en cours des routes, ça n'arrive pas à pousser les convois. Et ça pose des problèmes. Vous verrez que les marchandises pourrissent en cours des routes parce que les bateaux n'est pas en bon état. Alors, de pièces de réchange, oui.
Oui, donc je voulais juste compléter, là vous confirmez, donc vous rejoignez la réflexion de l'université de l'ULE qui insiste sur l'insuffisance et l'obsolescence des équipements de signalisation et des communications, ainsi que l'insuffisance et l'obsolescence des matériels de traction.
Certainement, il y a un problème à ce niveau-là, C'est pourquoi je voulais aussi rejoindre, en matière de rejoindre l'université à l'auteur des pièces de réchange. Vous savez, lorsque un bateau, le moteur tombe en panne, il faut appeler les marchandises, les pièces de réchange de l'Europe. Vous savez, c'est tout un problème. Appeler les pièces de réchange depuis l'Europe jusqu'ici à l'air, mais ça pose un problème. C'est pourquoi les armateurs choisissent de prendre de pièces usées ici et en sorte que ça puisse encore poser des problèmes lors du voyage. Mais un autre problème aussi, je crois, un autre auditeur l'a évoqué, c'est le problème du personnel. Le personnel navigant est très mal payé. Moi, je suis le fils d'un navigant et je sais que mon père gagne. Je ne sais pas comment vous les expliquer. Vu que le personnel ne sont pas bien payés, ça pose aussi problème. Ils ne font plus leur travail comme il faut. Ils ont aussi évoqué l'état du vieillissement, du personnel. Le vieillissement demande un problème maintenant des relèves. Il faut que ces gens-là soient remplacés par les autres. Mais je ne sais pas qu'est-ce que l'école de navigation, notre école de navigation, fait aujourd'hui. Vous savez, il y a un phénomène qu'on appelle « moana imwa ». C'est-à-dire que ce sont des jeunes gens qui accompagnent le personnel navigant en cours de voyage et en même temps ils apprennent le travail. Mais ils ne le font pas de la bonne manière parce qu'ils sont pas professionnels.
Kevin, comment réagissez-vous? Kevin, comment réagissez-vous face à l'attitude du gouvernement qui, en fait, ça s'entend que il y a ces cas d'obsolescence des matériels au niveau soit de la SNCC ou de l'Econatra. Il a pu, en fait, réhabiliter certains matériels, notamment pour le cas de l'Olatra, l'ITB Kokolo, qui a déjà eu à effectuer d'ailleurs des voyages sur le fleuve, et la SNCC qui vient d'acquérir aussi des nouvelles locomotives. Alors, donc c'est déjà un pas où vous souhaiteriez, comme les autres observateurs, que, effectivement, les gouvernements puissent mettre des moyens suffisants pour acheter, construire de nouveaux bateaux.
Mais c'est ça le problème. Le gouvernement a fait un pas, mais c'est pas suffisant. Je prends le cas, par exemple, de l'ITB Kokolo. L'ITB Kokolo fait des va-et-vient ici, Mbandaka, Kinshasa, Kisangani. Mais j'ai appris par la bouche de son directeur que le gouvernement devrait plutôt subventionner la société pour que ça puisse bien marcher parce que avec le matériel qui équipe le bateau, ça demande beaucoup plus que lorsque les clients arrivent, qu'ils puissent payer un montant un peu exorbitant. Alors ce qui ne va pas faciliter le fonctionnement de la société. En fait, les clients ne vont pas choisir le bateau parce que c'est un peu plus élevé. Ils choisissent maintenant les privés si leurs bateaux ne sont pas vraiment viables, les conditions de sécurité ne sont pas remplies, tout ça. Donc voilà.
Merci beaucoup, Kevin, pour vous, la République démocratique du Congo, qui s'étend sur un peu plus de 2 345 000 km², qui est d'ailleurs le deuxième pays d'Afrique par sa superficie. 56 ans après son indépendance, la RDC ne possède aucune route traversant le pays d'un bout à l'autre, et les transports aériens constituent l'unique moyen de parcourir de longues distances. Alors rares sont les Congolais qui peuvent se permettre un billet d'avion, et beaucoup ont l'impression de vivre dans un pays formé d'entités séparées. Alors le fleuve et les lacs devraient être le palliatif, disons, malheureusement aujourd'hui, donc on assiste à autre chose. Merci beaucoup, Kevin. Ignace, vous êtes en Boujibaï. Bonjour, Ignace.
Merci de m'avoir accordé la parole à Radio Capi. Bonjour et bonjour à tous les auditeurs qui nous suivent en ce moment.
Quel est votre avis, Ignace?
Voulant aborder le sujet du jour, je prends l'exemple de l'aéroport de Bikemba en Boujibaï, par exemple. Cet aéroport qui avait besoin d'une petite somme pour la réhabilitation. qu'est-ce que le gouvernement congolais a fait. Il a envoyé, je peux dire, le triple de cette somme-là pour le lancement des travaux de construction d'un aéroport à Kindu. C'est pourquoi, sans la volonté de décentraliser, même 100 ans après l'indépendance,
voilà, on a des petits soucis avec la ligne de Ignace. Ignace, vous êtes avec nous? Voilà, on ne saura pas vous garder le plus longtemps possible sur nos antennes, parce qu'il y a cette mauvaise qualité de communication. Par respect des auditeurs, nous prenons plutôt Amos qui est à Bukavu. Amos, bonjour et bienvenue.
Bonjour, je suis le conducteur de la radio au Cap-Ci.
Voilà, Amos, nous avons également des petits soucis avec vous. Est-ce que vous pouvez peut-être vous déplacer un tout petit peu? Est-ce que vous êtes dans une maison bétonnée, j'imagine?
Oui, je suis dans une maison, tellement vraiment la connexion est en train de nous déranger, de nous chercher.
Voilà, on a des perturbations. On l'a senti même avec le prédécesseur qui parlait tout à l'heure. On les perdait petit à petit. Mais espérons qu'avec vous, ça va aller. Amos, quel est votre avis?
En fait, mon avis est que nul n'ignore que si on est le premier capital du monde à l'État, ça fait avec des bisous pour attirer tout cela. Dans l'histoire, on dit que si on est en train de pas absorbé,
voilà, Amos, désolé, on ne peut pas continuer avec vous. 081-890-6315 pour votre intervention en direct. Et vous avez également la possibilité de poster vos commentaires. Merci à vous tous qui nous avez envoyé des messages sur notre page Facebook.
Écho d'économie sur Radio Capi, la vie économique du Congo a une vitrine. Écho d'économie, 18h15 heure de Kinshasa, un magazine qui prend la température. Les marchés, la vie des entreprises, le monde rural, des questions se posent, nous y répondons clairement. Les bonnes initiatives, une nouvelle idée, reportage sur le Congo qui bouge. 18h15, Écho d'économie, une émission de référence qui parle à tout le monde.
Parole aux auditeurs, J.R. Nguyen.
56 ans après son accession à l'indépendance, le 30 juin 1960, le secteur des transports et des ports ainsi que le chemin de fer en République démocratique du Congo n'arrive pas à offrir un service meilleur à celui de la période coloniale. Selon une réflexion de l'université de l'ULE, les problèmes qui caractérisent ce secteur sont, d'après la même université, l'insuffisance et l'obsolescence des matériels de traction, l'insuffisance et l'obsolescence des équipements de signalisation et de communication, le manque des pièces de rechange, le manque d'entretien, le vieillissement et la sous-qualification du personnel. Vous ajoutez à cela le problème des gestions. Alors, selon vous, que faut-il faire pour améliorer les secteurs des transports et des ports ainsi que les chemins de fer en République démocratique du Congo? Maître Serge, vous nous avez raison. Vous êtes à Kamina. Bonjour.
Bonjour, Maître Jacques. Bonjour, Philippe, aux invités de la Radio Capi.
Alors, on va, après avoir fait l'état des lieux, nous allons, parce que l'état des lieux d'ailleurs est connu, nous revenons sur ça à tout moment, mais en ce moment, nous serons obligés quand même de faire des propositions. Que faut-il faire pour améliorer les secteurs des transports et des ports ainsi que les chemins de fer à RDC, Serge?
Oui, pour vraiment améliorer, il faut passer au taylorisme. C'est-à-dire quoi? Dans ce secteur, il y a des gens-là qui ne veulent que travailler pour leur propre poche. Hein? Il n'a pas dû chercher l'homme qu'il faut, la place qu'il faut. Vous savez, je suis rendu une fois du côté Lankinga, loi, bon, quand nous sommes allés travailler à la CENI, c'était pas table. Maintenant, pour le moment, il y a des tonnes et des tonnes de maïs qui pourrissent par manque vraiment de bonnes infrastructures. Vous passez là-bas, pour seulement se faire transporter, vous devez passer dans l'eau. Il n'y a même pas de fond. Et j'aimerais, en tout cas, vous dire, puisque vous êtes la voix la plus saine, la Radio Capi, hein, baisser aussi les prix pour le transport en commun. Là. Il fallait peut-être des camions à Lubumbashi, on parle de 10 000 francs à chaque train. Hein. Là, on verra que non, on a un peu amélioré. Et puis, en dehors de ça, laisser les étudiants librement se manger et se déplacer, sans demander un seul frais pour les étudiants, ils vont en trouver où? Ça, en tout cas, nous regrettons.
Alors, donc,
nous sommes allés encore dans un autre endroit où on a connu des calvaires. Les routes là-bas, qu'on puisse asphalter les routes au niveau là des incidents. Demandez à nos amis Kassaïens qui viennent avec des voitures, ils périssent. Hein? C'était la seule voie, c'était la nationale. Depuis que Mobutu avait vraiment mis une cour là-bas, puisqu'il y avait le monologiste qui était entré par là. Et même c'est ce régime ici, des Kassaïens, ne pas vraiment entretenir cette petite voie-là.
Oui, mais
c'est la raison numéro 1. Là, en tout cas, je suis vraiment d'accord avec ces jeunes étudiants. Néanmoins, j'avais un petit apport.
Oui, maître Serveur, parce que vous avez brossé la situation qui traverse la population dans ce coin du pays, est-ce qu'on peut dire qu'au niveau du secteur dont vous avez évoqué là, il n'y a pas de bac pour permettre à ce que les gens, pour permettre la mobilité quand même des uns et des autres, hein, pour aller d'un côté à un autre. Il n'y a pas de bac.
Je vous dis, au nom d'un seul virus, le public vient encore dans le ventre de sa mère. Il n'y en a même pas. Il y a une pirogue. Des fois, là, les gens tombent dans l'eau. Quand vous tombez, vos marchandises, en tout cas, se perdent. Il n'y en a pas, je vous dis. Posez seulement la question aux amis là, Cassaïens, qui viennent avec leur voiture là-bas et leur camion. C'est un calvaire. Ils le font un mois, tout le mois. Moi, d'abord, je prends l'exemple. J'avais dit à Lubumbashi en moto. J'avais fait le Lubumbashi vers Kolwezi, c'était à 15h déjà, j'étais à Kolwezi. Maintenant, quitter Kolwezi vers Kamino. J'ai fait presque une semaine. Il fallait voir en cours de route là-bas. Je vous dis que c'est un calvaire, mon cher ami.
Merci beaucoup, maître Serge, d'avoir appelé du Kamina. On reste toujours au Katanga. Pacifique, vous êtes à Lubumbashi. Bonjour.
Bonjour, Gère. Les éléments qui font l'objet de votre émission, bien entendu, bien que l'énumération n'est pas exhaustive, et c'est ça même les indices du développement. On ne peut pas parler de développement dans un pays lorsque les secteurs de port, les secteurs de transport est foutu. Pratiquement, il n'y aura pas de développement. Je voudrais vous faire voir, Niger, par le premier élément que vous avez dit, cité, les ports. Allez-y à Goma, allez-y à Bukavu, allez-y même à Kalemi, voyez l'état de ce port. Hein? Ça ne reflète pas la République démocratique du Congo comme port. Ce sont des particuliers eux-mêmes qui sont en train de monter des ports avec des systèmes plus ou moins archaïques, et je pense qu'un jour ça va s'écrouler et ça va créer encore plus de problèmes pour la République. Voyons d'abord également les problèmes des secteurs des transports. Je m'en souviens qu'il y a une fois, le Premier ministre Matata était venu à Lubumbashi pour inaugurer les locomotives. Et après avoir inauguré ces locomotives, après un temps, on nous a dit que ces locomotives ne pouvaient pas encore être mises en service parce que ce sont des anciennes locomotives qu'on avait tout simplement repeintes et c'était fini. Alors, vous voyez que l'université de l'ULE a dit la vérité, que c'était tout simplement une question de gestion. Je vous assure que lorsque la gestion ne marche pas, tout ne peut pas marcher. Regardez, le monsieur Platt, qui est venu avec Cizaray à l'époque, il dit que je ne suis venu qu'avec un stylo tout simplement. Une façon de se moquer encore des gestionnaires congolais que vous avez tout, mais vous êtes incapable de pouvoir faire de manière à ce que ça puisse marcher. Aujourd'hui, 56e année de l'indépendance. Nous voyons que comme si nous sommes en train de reculer à l'époque belge. Mais ça ne va pas, ça ne marche pas. Et même les Belges eux-mêmes, quand ils nous voient comme ça, ils disent non, ces gens ici, ils n'ont pas compris, ils ne peuvent pas aller encore dans le sens de développement. Comme les transports routiers ne marchent pas, plutôt les transports des chemins de fer ne marchent pas, vous voyez que tous les minéraux commencent maintenant à être transportés sur des voies routières et ça pose énormément de problèmes. Aujourd'hui, les Chinois qui sont ici, ils vont vous dire, non, nous avons aménagé encore ces routes, nous avons réhabilité ça. Mais les tonnages qui passent là-bas, ça pouvait également être transporté par des trains marchandises et tout ça, et on aurait eu moins de problèmes. Aujourd'hui, nous avons des difficultés, aujourd'hui, nous avons des problèmes avec tout ça. Alors, cher, je vous dis tout simplement que nous devons faire très très attention. Je crois, en proposant, je vous propose ceci. Alors,
Allez-y, Pacifique.
Oui, je vous propose ceci. Pour ma part, je crois que le gouvernement actuel devait mettre les paquets pour que les universités, comme l'université de l'ULE a fait, de faire des investigations, des colloques, des conférences, pour que les gens discutent sur le développement du pays et on lui propose des solutions et il prend ces solutions et il les met en pratique. Et regardez, quand
oui,
le président de Gaulle est passé en France, mais
c'était tout simplement un enfant d'un historien. Il n'avait pas de technique, il appelait tout le monde à la salle. Allez, venez ici, posez-moi des questions. Parmi des gens qui posaient des questions, il y avait même des gens qui donnaient des réponses à tout cela. Il avait pris ces réponses-là, il les avait mis en pratique et la France est en train de se développer. Rien que tout ça, vous voyez. Alors, moi je crois que si les systèmes de port, les secteurs de transport fluvial, maritime, aérien ne marchent pas, il n'y aura pas non plus de développement. Donc, moi je dis que il est tout simplement question de voir, hein, de classer les choses en ordre de priorité. Donc, c'est ce qui nous manque ici. Qu'est-ce que nous devons prioriser aujourd'hui? Donc, on prend ce qui n'était pas en priorité, bon, on exécute. Ce qui n'était pas en priorité, on exécute. Ce qui vient comme ça, bon, on exécute finalement. Nous allons à tâtons. Voilà, j'ai.
Merci beaucoup, Pacifique, d'avoir appelé de Lubumbashi. On va repartir à Boston, aux États-Unis, avec Joséphine. Madame Joséphine, bonjour.
Bonjour, Radio Capi. Merci de m'avoir, d'avoir passé la parole, hein, de m'avoir passé la parole. Je vais dire ceci. Ce qu'on parle aujourd'hui, c'est ce qu'on a dit hier. OK. La solution, c'est quoi? Au Congo, il y a la plupart des agents de l'État, ils vivent avec les salaires de 200 dollars, 100 dollars, 200 dollars, et ils vivent. Moi, je crois qu'il faut réduire les salaires de tout le monde, comme Moussé Laurent-Désiré Kabila l'a fait. Tout le monde peut avoir les 200 dollars, 300 dollars à chacun, et puis on prend cet argent, on commence avec un programme. Je vais appeler ça le programme de étoile éclatante. Donc, ce que nous allons faire, c'est arrêter toute importation de vivres frais, des histoires à manger. Maintenant, nous allons choisir 3 à 4 points là où nous allons éclater ces points-là à l'intérieur du Congo, pas tout autre, pas à côté de Boda, c'est quoi? Pas à côté de villes qui sont tout près des autres pays. Mais nous allons faire ça à l'intérieur. Par exemple, du côté de l'est, sud-est, nous pouvons prendre Bukama. Nous éclatons Bukama avec une route bitumée. On fait comme Mobutu. Nous devons oublier le problème là des 56 ans d'indépendance. Il faut compter le 15 ans que le président Kabila a fait. Pendant les 15 ans, il y a eu 5 quinquennats. Il y a 3 quinquennats dans les 15 ans. Là. Chaque 5 ans, on peut développer un pays. On peut faire des améliorations terribles pendant les 5 ans. Lui, il a fait 3 fois 5 ans. Donc, il devait faire quelque chose. Nous pouvons prendre le Bukama au sud-est, et puis nous pouvons prendre Ilebo au sud-ouest, et puis nous montons du côté de nord, nous pouvons prendre Lodja, et puis nous pouvons prendre Ubundu. Nous éclatons le point là, avec les routes bitumées seulement. Et les gens vont quitter les grandes métropoles comme Kinshasa, Lubumbashi, ils vont venir à l'intérieur. Réduisons les salaires, tout le monde doit avoir les 300 dollars là, parce qu'avec un 200 dollars qu'on donne à beaucoup d'agents de l'État, ils vivent. Arrêtons avec les histoires là, les gens qui touchent 80 000 dollars, il y a des gens qui ont à l'extérieur, offshore, avec la liste qu'on a donnée de Panama Papers. Donc, il faut éclater le Congo avec les routes bitumées seulement. Et puis, on va voir le problème de chemin de fer. Monsieur Classe l'a fait.
Oui, Madame Joséphine. Si nous regardons les infrastructures, notamment ferroviaires ou encore fluviales, telles que laissées par les colons, on se rend compte que finalement, il n'y a pas eu évolution. La RDC n'a pas évolué dans les temps avec ces infrastructures. Alors, qu'est-ce qui serait à la base de cela? Et que faut-il faire aujourd'hui pour que nous récupérons ce retard?
Les routes nationales au Congo existent. Le problème, c'est l'entretien. Il faut bitumer ça. Il faut faire les routes battues avant de voir le route asphaltée. faisons le route battue comme Mobutu le faisait avec l'entreprise office de route.
Office de route.
C'était partout. En fait, arrêtons d'importer la farine, parce que c'est la farine, c'est dans c'est sur la table de chaque famille au Congo chaque jour. Arrêtons de faire ça. Il y a la farine à l'intérieur du Congo.
Merci
les
beaucoup.
Les salaires doivent être. Pardon?
Voilà, je crois que vous avez fini, madame.
Oui, j'ai fini. Merci beaucoup,
madame Josephine, d'avoir appelé de Boston aux États-Unis et surtout d'avoir partagé cette expérience avec les auditeurs. Et nous rappelons que l'échange sur notre page Facebook se poursuit d'ailleurs. Vous pouvez continuer les débats. Mais maître Roger, vous nous avez rejoint. Roger Caller, vous êtes à Kinshasa. Bonjour et bienvenue.
Bonjour, Gérard. Bonjour.
Ok, votre avis?
Bon, moi je pense qu'il y a un problème de la leadership. Il y a un problème de la leadership de telle manière que le gouvernement devrait prendre des mesures appropriées pour assainir vraiment le secteur du transport de poissons. Je vous donne un exemple, M. Gilles. Moi je suis originaire de Bumba. Par exemple, le chemin de fer au niveau de l'Équateur, tout ça est limité au niveau de Bumba. Et pour le moment, rien ne marche. Même des personnels qui ont travaillé pendant longtemps dans cette société, il y a presque la moitié qui sont déjà décédés. Et il y a aujourd'hui même le matériel qu'on a laissé, les wagons et les autres matériels de construction ou de transport. Tout s'est abîmé. Il y a même des gens qui ramassent le fer pour vendre ça, communément appelé à Kinshasa mitraille ici. Donc le gouvernement devrait prendre d'abord la responsabilité de revoir encore les personnels, d'envoyer les gens au recyclage au niveau ou bien à l'étranger pour être bien formés afin de venir répondre aux questions vraiment de la société. Et aujourd'hui, rien ne marche. Je vous donne encore un deuxième exemple. Allez à Bumba, regardez le port de Bumba. C'est presque inexistant. C'est presque inexistant. Donc, les grilles ne marchent pas, les dépôts, donc les toits qui sont apportés par le vent, rien ne marche. Donc, tous les bâtiments que les berges ont laissés. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de sol. Il y a même des gens qui viennent même prendre des briques pour aller construire autre chose qu'ils veulent. Donc, c'est une responsabilité de la responsabilité de l'État, que l'État devrait prendre en charge les personnels, former les personnels, restaurer encore la société pour que cela puisse aller de l'avant.
Alors, M. Roger, je crois que ceux qui ont l'habitude de voyager sur le fleuve, ils savent que entre le tronçon entre l'axe entre Lissala et Bumba, il y a souvent un problème d'assemblement, hein. Je ne sais pas comment on appelle ça dans le jargon pratiquement technique au niveau de technique de balisage. Alors, est-ce qu'aujourd'hui on peut quand même avoir un regard sur ce qui se fait en ce qui concerne le balisage du fleuve? Est-ce que dans cette tronçon-là, on a quand même pu faire quelque chose pendant ces dernières décennies?
Il y a quand même quelque chose,
Maître Roger, nous vous gardons en ligne, on va revenir à vous d'un moment à l'autre, tout en rappelant à nos auditeurs qui peuvent également participer à ces débats en composant les 081-890-6315.
Radio Okapi.
Le flash d'information Bibi Moukoukole.
La coalition des partis de mouvement politique de l'opposition en faveur du dialogue, regroupement coordonné par l'ancien vice-président Arthur Zaïdingoma, s'est exprimé mardi à Kinshasa. Dans le contexte actuel où un consensus total sur la notion du dialogue n'est pas encore trouvé entre majorité et toute l'opposition, ce regroupement a préféré réitérer son invitation au dialogue qu'il considère comme l'issue la plus recommandable du moment. Arthur Zaïdingoma s'explique au micro de Dylan Mazimba.
Je soutiens naturellement des élections dans le délai constitutionnel. Mais cependant, étant donné les difficultés que nous avons, les difficultés techniques d'organisation de ces élections, la CNI nous dit déjà qu'elle ne peut pas organiser ces élections en 2016, pour des raisons techniques, notamment les fichiers électoraux et d'autres considérations qui nécessitent un temps plus long du travail de préparation. Nous devons nous mettre ensemble pour nous organiser et définir les délais objectivement réalisables. Et c'est ça le dialogue.
Deux enfants ont été grièvement blessés lors d'un incident survenu hier mardi à Changé, dans les hauts plateaux de Calais. Ils étaient à la recherche du bois de chauffe lorsqu'ils ont fait éclater une grenade en voulant la couper avec la machette. Le chef de poste d'encadrement administratif de Nouvi confirme cette information. Et puis un militaire pardis s'est tué à bout portant un jeune garçon de 22 ans. Cela s'est passé hier mardi dans la localité de Kaloungou, en territoire de Calais. Les sources militaires affirment que c'est un lieutenant du bataillon spécial commis à la barrière routière, pourtant illégale, qui a tiré sur le jeune homme qui disait ne pas avoir les 200 francs congolais exigés à tout passant. La même source précise que le commandant qui a érigé cette barrière illégale ainsi que l'auteur du crime sont aux arrêts. Voilà tout pour ce point d'actualité. Parole aux auditeurs continue. Merci de rester avec nous.
Parole aux auditeurs.
Merci encore de votre fidélité à Radio Okapi. Si vous nous rejoignez, bienvenue dans Parole aux auditeurs, votre magazine d'échange citoyen. Maître Roger Calé, avant les places d'information, vous aviez la parole. Vous nous brossez l'état des lieux de l'axe Lissala-Bumba. Aujourd'hui, dans quel état?
Oui, effectivement, sur le niveau du fleuve, donc il y a eu des améliorations. On a essayé d'améliorer d'autres choses. Mais par rapport au nombre de bateaux qui devraient naviguer le fleuve, c'est là où il y a les questions. Parce que aujourd'hui à Bumba, monsieur, il y a des produits qui sont en train de périmer dans des bateaux, dans des dépôts. Donc, on n'a pas les moyens de transport, c'est vraiment insuffisant par rapport à l'évacuation des produits. Vous savez que Bumba, c'est le territoire vraiment agricole, quoi. Et on devrait réhabiliter presque tous les bateaux. Il y avait Mobimbi, il y avait Kokolo, il y avait Béa, il y avait Tati, quand on était encore des enfants à l'école primaire à Bumba. Donc on venait toujours d'acheter auprès du port pour regarder les bateaux. Mais aujourd'hui, ça n'existe pas. Il y a que...
Le Kokolo qui a été réhabilité, oui.
Oui, Kokolo seulement.
Et qui est déjà arrivé par combien de fois là-bas, à Bumba ou à Lissala?
La dernière fois, j'étais en Bandaka, je crois que c'est trois fois, je crois.
Trois fois. Voilà. Alors, mais à comparer avec le rythme de rotation, en fait, de bateaux à l'époque de la Première République, aujourd'hui, là, est-ce qu'on peut dire qu'on a vraiment difficile à atteindre quand même le minimum, hein?
C'est très, très difficile, parce qu'à l'époque, il n'y avait qu'un autre monteur. L'autre descendait. Il se croisait toujours en route entre Mbandaka ou Belisala ou bien Makanza. Quelque chose comme ça. Et mais pour le moment, c'est impossible. C'est impossible. Donc, il faut attendre
un moment
va monter jusqu'à Kisangani, charger là-bas des haricots. Quand il arrive à Bumba, il n'y a plus de place. Et le produit est là.
Donc, vous demanderez au gouvernement de revoir un peu la flotte navigable pour permettre à ce que la population ait la possibilité d'avoir une facilité au niveau de mobilité. Hein.
Exactement.
Merci, Maître Roger, d'avoir appelé de Kinshasa. Jean-Pierre, vous êtes à Dungu. Bonjour et bienvenue.
Bonjour, Monsieur Gérard.
Quel est votre avis, Jean-Pierre?
Oui, mon intervention, je l'ai placée à trois points. Le premier point, c'est une parenthèse messagère. Je voudrais demander un peu au service technique de la radio Okapi par aux auditeurs de diversifier un peu les classements des intervenants. Vous verrez que ça devient une monotonie, soit qui dévoce en scène des Bandundu et Kinshasa, qu'on puisse un peu classer les intervenants tels qu'ils les demandent. C'était juste une parenthèse.
Voilà. Merci beaucoup, Jean-Pierre.
Ok. Le deuxième point, si l'université de Louélé a élevé la voix pour décrire ce qui se passe, je vous dis, dans les Louélé, c'est terrible. Il n'existe presque pas de route. Ni à Monusco, les deux Louélé seraient supprimés. La carte de la RDC. Récemment, quand je partais pour Ishiro, rien que pour accéder au centre-ville, on a traversé une rivière à pied et à peine Ishiro, le chef-lieu de la nouvelle province, c'est grave. dans ce cadre-là, je pense que si nous avions régressé dans le cadre des infrastructures routières, il y a deux points. D'abord, l'injustice et le manque de bonne volonté pour réhabiliter le pays qu'on a. Chaque fois on écoute sur la radio Capi que la Banque mondiale a accordé tel montant pour la réhabilitation de ces et de cela pour les transports. Mais dans la plupart des cas, toutes ces aides se limitent à Kinshasa, Lubumbashi et ces derniers temps, à cause du premier ministre, peut-être les Kindu. Mais chez nous, ici, rien n'arrive. Et de deux, il y a la mauvaise volonté. Le gouvernement, c'est la masse. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Mais que font d'autres nations? Dungwe à la frontière des trois nations, l'Ouganda, le Sud-Soudan, la RCA. Jusqu'à la frontière, quand nous sortons de notre pays, vous voyez qu'il y a l'Ouganda, c'est beau. Le Sud-Soudan, il y a la guerre, mais vous voyez l'état des routes, c'est bien. La RCA en guerre aussi, mais l'état des routes, c'est toujours bien. Mais c'est quelle malédiction qui s'est incarnée seulement sur Dungwe pour que nos infrastructures routières, j'ai dit la RDC plutôt, pour que nos infrastructures routières ne puissent pas être réhabilitées. Vraiment, Dungwe est oublié, pour ne pas parler des déjouelés. On se déplace à peine et par l'occasion, nous remercions la MONUSCO pour les quelques entretiens qu'elle a opéré dans notre territoire, dans notre province.
Merci beaucoup Jean-Pierre d'avoir appelé des Dungwe. On va prendre Félicien qui est à Kinshasa. Félicien, bonjour.
Bonjour, bonjour à tous les auditeurs de Radio Okapi.
Alors, je disais tout à l'heure avec vos prédécesseurs que 56 ans après son accession à l'indépendance, le 30 juin 1960, le secteur des transports et des ports, ainsi que le chemin de fer en RDC, n'arrive pas à offrir un service meilleur à celui de la période coloniale. Est-ce que c'est les constats que vous avez également fait autour des différents points qui caractérisent aujourd'hui ce secteur, selon une réflexion de l'Université de l'ULE, qui note qu'il y a l'insuffisance et l'obsolescence des matériels de traction, l'insuffisance et l'obsolescence des équipements, des signalisations et des communications, le manque des pièces de rechange, le manque d'entretien, le vieillissement et la sous-qualification du personnel, ajouté à cela le problème de gestion.
Ah oui, merci. L'université de l'ULE est en train de parler des conséquences ou des constats, mais plutôt nous devions plutôt nous poser la question pourquoi ça marchait sous la colonisation et pourquoi ça ne marche pas aujourd'hui. Et ce n'est pas les ancêtres qui nous ont laissé ces infrastructures. Nous avons vu l'homme blanc venir avec et installer toutes ces infrastructures et les entretenir, les maintenir. Et puis après, il est parti. Et nous avons remplacé l'homme blanc. Et il n'y a aucun poste que l'homme blanc a laissé, est resté vacant jusqu'à aujourd'hui. Il y a eu d'autres personnes qui ont occupé ces fonctions. Mais qu'est-ce que nous avons fait de ces fonctions que nous avons occupées et après le départ de l'homme blanc? C'est là où se pose le problème d'hommes dans notre pays. C'est là où se pose le problème de volonté politique. C'est là où se pose le problème de la bonne gouvernance. Donc nous avons un problème en Afrique en général et en République démocratique du Congo en particulier. Et on est en train de gérer avec les slogans. Et on est en train de faire de la propagande politique au lieu de travailler pour le développement du pays. Et imaginez-vous que ces entreprises qui marchaient bien hier, et imaginez-vous l'époque même quand mon bout avait commencé, c'est que nous étions avec des bateaux, avec des trains, avec tout ça, et que brusquement aujourd'hui nous nous retrouvons comme si notre pays recommence aujourd'hui. Si on a la volonté politique, nous avons vu des exemples en Afrique. Thomas Sankara arrive dans un pays pauvre, il n'y a rien. Il a commencé à construire des chemins de fer avec l'aide de la population, les salongo que nous avons appelés chez nous salongo. Et ils apportaient des pierres, ils consultaient les chemins de fer. Et cette politique de Thomas Sankara n'a pas plu aux Occidentaux. On l'a éliminé parce que c'était une révolution qui devait amener l'Afrique, et nous avons le Burkina Faso et l'Afrique, très loin. Alors, le blanc, comme il ne veut pas que l'Afrique se développe, il doit empêcher tout cela. Je ne veux pas citer la Libye, parce que là, au moins Kadhafi avait du pétrole et tout ça. Mais même s'il avait du pétrole, s'il n'y avait pas la volonté politique. il ne pouvait pas faire ce qu'il a fait pour les Libyens. Aujourd'hui, ils sont en train de pleurer. Nous, les dirigeants, sont partagés entre l'enrichissement personnel et l'intérêt supérieur de la nation. C'est ça le problème. Si nous ne menons pas le combat contre la corruption, contre les antivaleurs, si ils continuent à travailler de cette façon-là, vous avez cité les entreprises qui ne marchent pas. Mais qui on a mis dans ces entreprises? C'est les clientélismes.
Merci.
Les clientélismes. Alors, si nous continuons avec cette politique-là, ce n'est pas pour arriver à quelque chose de sérieux. Nous, on ne nous demande même pas de la nouvelle technologie. Mais nous ne sommes même pas mesurés de maintenir, de faire la maintenance dans l'entretien de ce que les Belges ont laissé. Même les maisons sont en ruine. Tout ce qu'on a laissé en ruine, alors que nous, nous sommes là. Nous ne sommes pas déplacés de ce pays. Mais dans tous les pays, on construit, on maintient, on entretient et la vie continue. Mais qu'est-ce qui est arrivé chez nous pour que nous puissions répondre toujours à zéro? C'est là le problème d'homme que nous avons à résoudre.
Merci beaucoup, Félicien. On va prendre Léon et on va terminer avec lui. Léon, vous êtes à Kinshasa également. Bonjour.
Bonjour.
Et quel est votre avis, Léon?
Oui, merci, M. JR, pour la parole que vous m'accordez. Je voudrais vraiment intervenir aussi, concernant mes amis, disant que par rapport au bilan de 56 ans de l'indépendance, loin de moi l'intention de dire que nous reculons encore une fois 56 ans avant l'indépendance, mais je voudrais simplement dire que le bilan est vraiment négatif. En ce sens que, par rapport au problème de la réalisation des bons services, un service de qualité vis-à-vis des usagers, mais je ne partage pas vraiment le même avis avec cette université-là. Lorsqu'elle dit que le problème s'agit au niveau de l'obsolescence de machines, ça vraiment ce n'est pas un problème tellement. L'obsolescence des machines, ce n'est qu'un fruit qui naît de la mauvaise gestion, non seulement des dirigeants qui sont en train de diriger ces services, mais aussi de ceux qui contrôlent ces dirigeants-là. Je veux dire ceci, M. JR. Vous allez vous rendre compte que si toutes ces personnes-là seraient vraiment en train de très bien gérer ces services, il y aurait un bon service, il y aurait un bon rendement qui pouvait faire à ce que les usagers soient en train de bénéficier d'un très bon service, d'un service de qualité. Vous allez voir que ceux qui travaillent normalement ne mangent pas vraiment comme il faut, mais ceux qui plutôt ne travaillent pas sont en train de consommer. La raison là qui devrait servir peut-être à la réhabilitation de toutes ces voies et consorts, donc vous allez vraiment vous rendre compte que
voilà, c'est un peu comme ça. Merci beaucoup Léon, et nous profitons pour dire merci à tous ceux qui ont participé à cette émission. C'est par ici que nous mettons un terme à ce programme. On se retrouve demain dans un autre numéro. On ne peut pas se quitter sans pour autant dire merci à Jean-Claude Sialla qui a assuré la mise en onde de ce programme réalisé par Pierrot et la Mégie. Julie Fézabongon d'Aïté au Standard et Gilles Lunguembo a eu le plaisir de coordonner et présenter cette émission. Alors nous profitons d'ailleurs pour vous souhaiter, en tout cas vous tous, bonne fête de l'indépendance. Nous allons nous retrouver en tout cas vendredi pour un autre numéro qui vont dans les cadres de la semaine de l'indépendance. Et cette fois-là, on va parler de l'absence des bibliothèques et aussi des maisons culturelles à travers le pays 56 ans après. Voilà, nous disons que l'actualité continue, en tout cas sur la fréquence de la paix. Restez branchés sur nos programmes. Thank you.